La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Nous sommes tous conscients du fait que le réchauffement climatique actuel conduit à une récession des glaciers, que nous avons vu diminuer à vue d'œil ces dernières années. Cela conduit à un changement des paysages dans nos montagnes, à une fonte des glaces dans l'Antarctique, à une remontée du niveau de la mer. C'est un phénomène mondial, et il est important de l'étudier comme tel. On observe des liens avec d'autres phénomènes géologiques, comme les séismes ou les volcans. Cela conduit parfois à une déstabilisation du sol. Cette diminution des glaciers est observée depuis la Terre, mais aussi depuis l'espace, ce qui apporte de nouvelles informations très importantes. J'ai avec moi aujourd'hui, pour nous parler de cette récession des glaciers, Étienne Berthier, qui est glaciologue, directeur de recherche au CNRS, membre du LEGOS, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Bonjour Étienne.
Bonjour Sylvie.
Je crois que tu as beaucoup voyagé pour étudier ces phénomènes, en Argentine, en Alaska, en Bolivie et d'autres. Tu as aussi étudié les glaciers de diverses régions asiatiques. Et tu es responsable de plusieurs projets spatiaux. Est-ce que tu peux nous préciser l'importance d'observer ces glaciers depuis l'espace, aussi bien que depuis le sol, sur le terrain, et nous donner des exemples d'études et de résultats obtenus ?
Oui, donc j'ai eu la chance effectivement de faire beaucoup de campagnes et de mesures sur le terrain. Et en fait, les mesures de terrain et satellitaires sont vraiment très complémentaires. Tout d'abord, le terrain permet d'avoir des mesures très précises, mais qui restent ponctuelles et limitées à quelques glaciers. Et souvent, les glaciers sont plutôt de petite taille, parce que pour pouvoir les arpenter et avoir des mesures significatives, il faut choisir par définition des glaciers un peu accessibles, pas trop loin des routes, et des glaciers plutôt de petite taille pour pouvoir les couvrir dans leur intégralité. Et du coup, l'échantillon des glaciers qui est suivi ainsi sur le terrain, il n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des glaciers du globe. Et donc la manière d'appréhender les glaciers dans leur ensemble et de suivre l'ensemble des glaciers du globe, c'est passer à l'outil satellitaire qui permet par la taille des images et la couverture complète et régulière de la planète par les satellites, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de l'évolution des glaciers du globe.
Et alors on fait ces observations depuis longtemps, je veux dire on a sur le temps, on a des observations de longue durée.
Alors pour la partie observation de terrain, ça commence dès le début du XXe siècle. Il y a des séries de mesures continues qui ont plus de 100 ans. Ça, c'est propre à la Suisse notamment, où les Suisses très tôt se sont attelés à étudier leurs glaciers sur le terrain. Et globalement, c'est plutôt dans l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, à partir notamment de la néo-géophysique internationale en 1950, qu'un certain nombre de glaciologues se sont mis à aller observer des glaciers, d'abord beaucoup en Europe, en Amérique du Nord, et puis dans un second temps, c'est dans d'autres régions du globe que les glaciers ont commencé à être suivis sur le terrain. Donc ça fait des séries assez longues, d'une cinquantaine d'années. Pour le satellite, c'est plus récent, évidemment. C'est l'essentiel des données qu'on utilise date de la période depuis 2000. Donc on a des séries homogènes et assez longues déduites des données des satellites depuis 2000. Par contre, on commence à utiliser aussi des satellites un peu plus anciens, et notamment c'est des satellites espions, des Américains, un peu des Russes, mais surtout des Américains.
Des militaires ?
Voilà, des militaires. C'est les militaires qui, dans les années 60-70, avaient déjà des satellites à très bonne résolution qui faisaient des très belles images. Dans un premier temps, évidemment, elles étaient classifiées, mais depuis une dizaine d'années, elles deviennent déclassifiées. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce qu'au lieu de se cantonner à 20 années de mesure, on peut remonter à des observations dans les années 60-70, et donc d'avoir des séries plus longues d'observations.
Et alors, vous observez la surface occupée par les glaciers qui diminue, et puis je crois qu'il y a aussi une question de vitesse d'écoulement qui est importante.
Oui, donc dans les variables qui nous intéressent pour qualifier finalement l'état de santé des glaciers, la plus facile à observer, c'est la surface. Il suffit finalement d'avoir une image et on va délimiter le contour du glacier, soit de manière automatique, mais c'est pas toujours évident, mais souvent en partie manuellement. On va pouvoir voir si au cours du temps, le glacier gagne de l'extension ou au contraire se rétracte.
Gagne de l'extension, ça existe encore, des glaciers qui gagnent de l'extension ?
Alors les glaciers qui gagnent, aujourd'hui, ça devient chose rare. Il y a une région à l'ouest de l'Himalaya qu'on appelle le Karakoram, une chaîne de montagnes qui... qui héberge notamment le K2, le deuxième sommet de la planète. Dans cette région, les glaciers sont stables et on peut de temps en temps avoir des glaciers qui, parce qu'ils s'accélèrent brutalement, ils peuvent, leur front peut avancer. Mais ça reste assez rare et c'est du domaine de l'exception. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec le satellite, c'est donc mesurer les changements d'extension. Une deuxième variable qui nous intéresse, c'est justement cette vitesse à laquelle les glaciers se déplacent. Et donc ça, on va utiliser des séries d'images, typiquement des images espacées parfois d'un mois ou d'un an, sur laquelle on peut, une fois qu'on a bien recalé les images, on peut suivre des structures en surface, des crevasses, des zones plus sales, dont on va pouvoir suivre le mouvement avec aussi des méthodes un peu automatiques qui va nous permettre de construire des cartes complètes de la vitesse de déplacement du glacier.
Et la vitesse est différente d'un glacier à l'autre, dépend de beaucoup de paramètres, je suppose.
Donc la vitesse est très très variable. En gros, plus un glacier est de grande taille, plus il va aller vite, parce qu'aussi plus il va être épais, donc la vitesse est en partie contrôlée par l'épaisseur du glacier. Et puis, il y a d'autres facteurs qui peuvent contrôler la vitesse. Par exemple, des glaciers qui se terminent dans la mer ou dans des lacs. Le fait que cette terminaison dans l'eau fait que souvent, ces glaciers s'accélèrent dans leur partie terminale et vont avoir des vitesses importantes dans la partie la plus basse du glacier.
Ouais, j'ai vu ça en Argentine. Il y a des magnifiques glaciers qui arrivent dans des lacs. C'est superbe.
Alors, pour donner peut-être des ordres de grandeur pour les auditeurs... Un glacier de montagne classique peut-être va se déplacer à 50 mètres par an. Les records mondiaux de déplacement des glaciers, c'est plutôt 50 mètres par jour, les glaciers les plus rapides des calottes polaires. Donc quasiment un mouvement qu'on peut voir à l'œil nu, puisque si on se ramène sur une heure, le glacier se déplace de plus de 1 ou 2 mètres.
C'est extraordinaire. Mais alors là, on parle plutôt de glaciers de montagne en ce moment, là, depuis tout à l'heure. Mais donc, il y a une différence entre les glaciers de montagne. Tu as parlé des calottes polaires, c'est un peu différent. Ouais. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la banquise, qui est encore quelque chose de différent. Tu peux nous dire un petit peu la différence entre tout ça ?
Oui, tout à fait. Ouais, c'est important de bien avoir ça en tête. On a à distinguer quelque part quelque chose, une partie qui est très différente, c'est la banquise, qu'on appelle aussi parfois la glace de mer, parce qu'elle se forme par le gel de l'océan. Donc ça, c'est une fine couche de glace qui va faire quelques mètres d'épaisseur seulement, et qui flotte au-dessous de l'océan, et on la trouve autour du pôle Nord, où se trouve l'océan Arctique, donc elle va flotter sur l'océan Arctique, ou en périphérie du continent Antarctique. Et donc il y a un peu de sel emprisonné dans la glace, et donc c'est une couche très fragile. Et ça, c'est à distinguer de la deuxième grande catégorie, qui sont les glaciers continentaux, qui se forment par accumulation de neige. Donc c'est l'accumulation successive des couches de neige qui se densifient, qui se transforment en glace, et qui vont pouvoir former à la fois, d'une part, les glaciers, c'est ceux qu'on trouve un peu dans nos montagnes, et puis les grandes calottes polaires, l'Antarctique et le Groenland. Ce qui les distingue finalement, puisqu'elles se forment de la même manière, ce qui les distingue fondamentalement, c'est la taille. Antarctique et Groenland sont vraiment les mastodontes de glace à la surface de la Terre, et beaucoup plus grands que les glaciers qui sont éparpillés un peu partout dans les montagnes.
Et alors, vous avez des résultats importants, là, à communiquer. Je pense qu'on en reparlera plus en détail dans une émission la semaine prochaine, mais peut-être maintenant, tu pourrais nous donner quelques exemples.
Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on a réussi à faire en 2021, notamment après le travail d'un étudiant qui avait terminé sa thèse, Romain Hugonnet, c'est d'avoir pour la première fois une vue exhaustive d'ensemble des pertes de masse de l'ensemble des glaciers du globe. Jusqu'à présent, c'était limité à quelques mesures de terrain ou des mesures satellites seulement sur quelques régions. Donc là, pour la première fois, et pour la période entre 2000 et 2020, on sait, glacier par glacier, région par région, combien ils ont leur masse a changé. Donc ce qu'on voit, c'est que, quelle que soit la région, les glaciers perdent de la masse. Y a des petites sous-massifs de montagne où les glaciers sont stables, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment cette région du Karakoram. Mais dès qu'on découpe en grandes régions, qu'on prend tout l'Himalaya, en moyenne, tout l'Himalaya perd de la masse, avec des disparités régionales fortes et assez intéressantes. Des régions qui perdent beaucoup plus, c'est le cas par exemple des Alpes, du Caucase, des Andes tropicales. Donc tous ces glaciers des latitudes tropicales ou tempérées perdent très vite de la masse.
Et tu peux nous donner un ordre de grandeur?
Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'en moyenne, ces glaciers perdent 1 mètre d'épaisseur chaque année, depuis 2000. Et en revanche, plus on se rapproche des régions polaires, et là on a finalement des glaciers qui sont moins sensibles au climat, même si le climat s'y réchauffe vite, parfois même plus vite, par exemple dans l'Arctique, le réchauffement est plus rapide qu'ailleurs sur Terre, mais les glaciers sont moins sensibles, chaque glacier a un peu sa propre réponse au changement du climat, et donc dans l'Arctique, les glaciers perdent, mais autant c'était 1 mètre dans les Alpes ou dans les régions tropicales, là on est plutôt à des pertes de l'ordre de 30-40 cm chaque année, ce qui reste important, mais qui est un peu moins fort.
Et alors toute cette eau, tout ce volume d'eau va dans la mer?
Oui. In fine, cette eau, bah, elle fond, elle quitte les glaciers, elle va dans les rivières, et puis elle se retrouve dans l'océan, et donc elle contribue à la hausse du niveau des mers. Les glaciers, donc tous ces glaciers de montagne, contribuent environ un quart aujourd'hui à la hausse du niveau des mers. Un autre quart s'explique par les pertes de masse des calottes polaires, donc le Groenland et l'Antarctique. Et puis le reste de la hausse du niveau des mers s'explique par le réchauffement des océans. Les océans sont de plus en plus chauds, de même que notre atmosphère se réchauffe, ben les océans, eux aussi, absorbent une bonne partie de l'énergie excédentaire dans le système climatique, donc l'océan se réchauffe, et comme tout corps qui se réchauffe, ben l'eau de l'océan va se dilater, et donc le niveau des mers peut monter comme ça, à masse constante, simplement par l'effet de réchauffement. Donc voilà, à retenir, la moitié augmentation du niveau des mers par réchauffement des océans et l'autre moitié, les glaces continentales, glaciers et calottes polaires.
Eh bien, on voit à quel point c'est important d'étudier ces glaciers en détail. On va revenir sur ce sujet la semaine prochaine. Donc à bientôt, à la semaine prochaine, Étienne.
Merci, à la semaine prochaine.